Dernière fois, avant que je ne parte, une personne m'a dit sa, on peut dire sa souffrance, en tout cas son étonnement, un peu douloureux devant le fait que l'on puisse comme ça se laisser guider par Dieu, être à l'écoute de Dieu en étant à l'écoute du réel, qu'on puisse s'ajuster à la volonté de Dieu, au désir de Dieu, instant après instant, qu'on ait cette capacité donc de sentir les choses comme Dieu les sent, de les penser comme Dieu les pense, et de demeurer dans notre cœur, là où Dieu nous parle, et d'échapper au raisonnement du mental. Je dis au raisonnement du mental, parce que le cœur et la raison, il n'y a pas de contradiction. C'est pas parce qu'on vit tout avec l'intelligence du cœur, au point qu'on s'efforce de demeurer dans l'intelligence du cœur, qu'on n'exerce pas sa raison. Mais simplement, on cesse de raisonner à vide, de se perdre dans des raisonnements qui sont en fait liés à nos passions humaines, et qui n'ont pas de racines profondes. Je veux dire, c'est des raisonnements sans perception de la vérité des choses. Nos raisonnements sans l'intelligence du cœur sont des raisonnements qui s'appuient sur l'imagination, la mémoire, et qui nous empêchent donc d'accéder à la vérité des choses et aussi à la vérité de ce que nous avons à faire en toute justice, c'est-à-dire de poser, comme dit Benoît XVI, le geste juste au moment juste. Mais vous voyez, cette question du geste juste au moment juste, du discernement de ce qui est parfaitement ajusté à la volonté divine, nous n'allons pas la développer maintenant, puisque au mois de juin, nous traiterons encore de la sagesse, comment nous laisser guider par la sagesse. Donc ce sera un complément à cet enseignement du mois de janvier, dans le sens de voir comment concrètement la sagesse du cœur, la sagesse qui est d'abord contact avec Dieu, avec le mystère de Dieu, peut de fait, je dirais, se déployer en nous et être source de ce qu'on pourrait appeler la prudence au sens propre, c'est-à-dire la sagesse pratique, la sagesse qui discerne l'action juste. Il y a des personnes qui sont, d'une certaine manière, contemplatifs, mais dont la contemplation n'aboutit pas, ne débouche pas sur un discernement pratique. Ils planent un peu. Ils ont des lumières dans la prière, dans la méditation de la parole, mais ça ne mord pas sur la vie concrète. Ça ne va pas jusqu'à ce discernement dans les choses de la vie. Donc ça, ce sera pour plus tard. Je voudrais terminer cette série d'enseignements en reprenant le thème « Comment acquérir la sagesse » et en reprenant l'enseignement de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a écrit « L'amour de la sagesse éternelle ». C'est dans ce livre qu'il montre, qu'il donne la prière de consécration de soi-même à Jésus-Christ par les mains de Marie. Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Vous voyez, dans la pensée de Saint-Louis-Marie de Montfort, pourquoi avons-nous besoin de nous consacrer à la Vierge? Essentiellement pour acquérir la sagesse. Pour acquérir le Christ, sagesse incarnée. Pour que le Christ soit vraiment la lumière de notre vie. C'est ce que j'aime chez Saint-Louis-Marie de Montfort, c'était un assoiffé de la sagesse. Et il a trouvé en Marie le secret. Il y a cette prière de consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie, que Jean-Paul II disait tous les jours, commence par « Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme. » Jean-Paul II, lui, a dit les choses d'une autre manière. Il a dit à la fin de l'année sainte que l'Église, pour se renouveler, devait repartir de la contemplation du Christ. Le Dukin Altum, aller vers la profondeur. Et ensuite, à la grande surprise générale, alors qu'il y avait déjà eu une année mariale en 1987-88, si mes souvenirs sont bons, Jean-Paul II a voulu qu'il y ait encore une année, on n'a pas intitulé année mariale, pour en parler, mais année du rosaire, faisant remarquer que c'était aussi une tradition qu'après un grand jubilé, il y a une année consacrée à la Vierge. C'est possible. Moi, personnellement, j'ai été très surpris qu'il recommence une année mariale, comme ça. Et en fait, il a voulu la recommencer cette année parce que c'était pour donner un moyen concret, j'ai envie de dire le moyen concret, pour entrer dans la contemplation de Jésus-Christ. Il ne suffisait pas de dire « Dokin Altum, entrons dans la contemplation de Jésus-Christ », il fallait donner un moyen. Et Jean-Paul II, qui avait une foi d'enfant et un cœur d'enfant, il a suivi les indications de la Vierge données par Marie à Fatima pour que son cœur finisse par triompher, et donc il a rappelé le rosaire. Mais il a voulu que cette récitation entre guillemets du rosaire soit plus contemplative qu'elle ne l'avait été dans les siècles passés. Et voyez, ici, c'est un autre langage que Saint-Louis-Marie-Claude-Montfort, qui ne s'est pas trop attardé sur la question de la contemplation du mystère du Christ. Et en réalité, pour obtenir la sagesse, nous l'avons montré, il faut contempler Jésus. C'est en contemplant Jésus que l'on contemple Dieu, qu'on est en contact avec Dieu. C'est en contemplant Jésus aussi que l'on découvre le sens ultime de notre vie, le but, le dessein éternel de Dieu. Et donc, Jean-Paul II, qui avait de la suite dans les idées, qui avait cet axe de revenir au Christ, mais en profondeur par la contemplation, un peu comme fil rouge de son pontificat, rappelez-vous sa première homélie, à la messe inaugurale de son pontificat, ouvrait tout grand les portes au Christ. Le retour au Christ, Jean-Paul II, a voulu rajouter une série de mystères lumineux. Il n'y a aucun pape qui avait fait ça. C'est quand même le pape qui a donné, après le rosaire sous sa forme actuelle, date du XVe siècle. Avant le chapelet était dit d'une autre manière. Enfin, il n'y avait pas notamment le « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». C'est au XVe siècle que ça a commencé. Mais le rosaire, donc, établi au XVe siècle sous cette forme des 15 mystères, s'est vu élargi à 20 mystères. Vous avez l'explication là. C'est un événement historique, pas bien réalisé. Évidemment, Jean-Paul II a dit « je propose ». Suggère, ce serait bien, si vous pouvez. Mais pourquoi il a voulu cet élargissement? Mais parce que pour que le rosaire soit effectivement une contemplation du Christ dans toute sa vie, il manquait la vie publique. Il y avait l'enfance, il y avait la passion, il y avait la résurrection, mais il manquait les 3 ans de vie publique. Et donc, dans cette nouvelle forme, créée par Jean-Paul II, enfin créée et s'est inspirée de personnes qui avaient déjà un peu pensé à la chose, on n'a pas tout fait. fait lui-même, disons qu'il a eu l'audace prophétique hein, de proposer un nouveau rosaire à l'Église tout entière. Nous avons une vraie pédagogie de contemplation du Christ. Dans les mystères, vraiment tous les mystères essentiels de cette vie. Ô bienheureuse Vierge, ma divine mère, donnez-moi vos yeux si purs pour contempler Jésus, donnez-moi votre cœur pour l'aimer. Prière de Marthe Aubin. Vos yeux si purs pour contempler Jésus, nous pouvons la garder dans notre cœur à chaque fois que nous disons le chapelet. Parce qu'en fait, c'est ça. Demandons à Marie de donner ses yeux si purs pour contempler Jésus et pour aussi acquérir la sagesse. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu trop simple comme moyen d'acquisition de la sagesse. S'il suffisait de dire le rosaire tous les jours, il y a longtemps que ça se saurait. Mais Saint-Louis-Marie de Montfort n'a jamais dit qu'il suffisait. Il a dit que c'était un moyen, le moyen, je dirais, le plus simple, qui nous est donné par Dieu, mais il met quatre moyens, il n'en est pas qu'un, dans ce livre sur l'amour de la sagesse éternelle. Alors, le premier moyen pour acquérir la divine sagesse. Premier moyen, un désir ardent. La sagesse se communique à ceux qui la désirent. Alors, je vous ai expliqué, hein, j'ai insisté sur le fait que ce désir de la sagesse, en définitive, est un désir d'union à Dieu. Pas un désir de la connaissance pour elle-même. Un désir de Dieu, finalement, qui est lumière et qui nous permet de voir tout en lui quand nous donnons tout à lui. Il rajoute à ce désir ardent qui correspond finalement à la pureté du cœur. Le cœur pur, c'est celui qui recherche d'abord le royaume de Dieu, d'abord l'union à Dieu. Donc, à cette première condition qui est la pureté du cœur, dans la pureté j'ai trouvé la sagesse, dit le Séracide, au chapitre 51. Il rajoute un deuxième moyen, la prière continuelle. La prière continuelle, c'est l'expression d'un cœur qui recherche Dieu. Prier sans cesse, à Saint-Augustin, c'est désirer sans cesse. Exprime et nourrit tout à la fois ce désir de Dieu qui est en définitive qui est l'espérance. Dire qu'un cœur pur, c'est un cœur qui espère. C'est l'espérance qui purifie notre cœur en le tournant vers Dieu, en le rendant assoiffé de Dieu. Divinement assoiffé de Dieu. L'espérance n'est pas un vague et confus désir de Dieu, tel qu'il est inscrit naturellement en l'homme, mais c'est un désir ardent, qui est éveillé par l'Esprit Saint. Qui est éveillé par l'Esprit Saint et qui est réveillé par la prière du cœur. Et donc, il ne suffit pas d'avoir un cœur... C'est-à-dire purifier, il faut que ce cœur soit dans sa recherche de Dieu enflammé, ardent. Il faut que ce désir soit éveillé, d'où la nécessité de la prière. Il propose de dire la prière de Salomon qui est en Sagesse 9. Une prière dans laquelle on demande la sagesse. C'est vrai que l'Écriture elle-même nous invite à demander cette sagesse. Saint Jacques, au chapitre 1, dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Qu'il la demande à Dieu, cette sagesse qu'il ne peut pas acquérir par lui-même, hein, peut-être qu'un don de Dieu, hein, il donne à tous généreusement sans récriminer, et elle lui sera donnée. mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Qu'il ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur, celui qui a l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Et celui qui a l'âme partagée, c'est celui dont le cœur n'est pas pur, qui n'est pas vraiment tourné vers Dieu. C'est Jacques 1, 5 à 7. Vous voyez que la prière qui obtient, c'est la prière qui désire vraiment. C'est pas, oui, ce serait bien, j'ai la sagesse, ben oui, j'ai suivi le cours, ça a l'air d'être intéressant, mon Dieu, si tu peux me donner la sagesse, ce serait bien, et puis donne-moi aussi de gagner l'auto. Pour avoir les deux. Non, la sagesse va être désirée comme le plus grand bien. Parce qu'en définitive, elle est union à Dieu. On ne peut pas la désirer d'une manière tiède. C'est pour ça que Saint-Louis Marie de Montfort précise « désir ardent ». Et donc, si nous n'avons pas le désir ardent, demandons l'ardeur. Demandons au Seigneur d'éveiller en nous cette soif de la sagesse. C'est-à-dire, en fait, de nous faire entrer dans l'espérance. Pour reprendre une expression chère à Jean-Paul II. La pureté du cœur, le désir ardent, revient à la pureté du cœur. La prière continuelle, qu'est-ce qui reste encore comme troisième moyen pour acquérir la divine sagesse? Une mortification universelle. Ça vous plaît? Vous voyez, c'est pas... Il n'y a pas de moyen magique là. Ça n'est Marie de Montfort qui part, prier la Sainte Vierge et puis ça suffira. Non. Il ne suffit pas de prier la Sainte Vierge, il faut aussi se convertir. Il faut se convertir. Alors, la mortification universelle, en fait, on l'a déjà vue la dernière fois. J'ai insisté sur l'obéissance. L'obéissance, l'abandon. Mortification, c'est d'abord la mortification de notre volonté propre. Si quelqu'un veut me suivre, moi qui suis la sagesse incarnée, si quelqu'un veut vivre dans ma lumière, dit Jésus, eh bien qu'il renonce à lui-même. Renonce à sa volonté propre. Qu'il prenne sa croix. Qu'il renonce à son désir d'indépendance. Volonté d'une vie par soi-même, autonome. Parce que Dieu donne sa sagesse au cœur pur, mais il la donne, si je puis dire, encore plus aux humbles. Tu bénis, Père, et prêchez ça aux sages, aux intelligents, d'avoir révélé aux tout petits. Et l'humilité, elle commence par le renoncement à notre agir propre, à notre volonté propre, à notre agir propre, et donc aussi à notre pensée propre. Mais si on n'était pas dans ce renoncement, comment pourrait-on s'ouvrir à la sagesse, puisque celle-ci doit guider nos pas? Désirer la sagesse, c'est aussi désirer se laisser guider par Dieu et non pas par soi-même. Récemment, un ami prêtre est venu avec une parole d'un père du désert disant que celui qui prétend se conduire par lui-même est conduit sans le savoir par un âne. Mais oui, parce que nul n'est bon juge sur soi. Et que nous ne sommes pas faits pour nous conduire par nous-mêmes de manière autonome. Celui qui prétend être son propre guide est guidé par un âne. Fut-il l'homme le plus intelligent au monde? Parce qu'il n'y a rien qui aveugle plus que l'orgueil. Mais dans le même sens, l'Écriture dit « Quelqu'un est-il sage à ses propres yeux? Il y a mieux à attendre de l'insensé. » Et donc, la mortification universelle, c'est ce renoncement continuel à notre... volonté de penser et de faire les choses par nous-mêmes, de nous-mêmes. comme si nous étions notre propre maître. Remarquez que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pose la question « Qui est mon frère et ma mère ?» Celui qui fait la volonté du Père, celui-là est pour moi un frère et une sœur et une mère. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que l'obéissance à Dieu, la soumission, l'humble soumission de notre volonté et de notre intelligence à Dieu est le chemin d'accès à l'intimité avec le Christ, c'est-à-dire la familiarité avec le Christ, c'est-à-dire la communion de pensée avec le Christ, c'est-à-dire à la sagesse. Être frère, sœur et mère du Christ signifie rentrer dans les sentiments et les pensées du Christ. Il y a moyen de reprendre cet enseignement de Saint-Louis malgré le moment fort. Donc le quatrième moyen, c'est une tendre et véritable dévotion à la Sainte Vierge. Ça vient en quatrième, ça vient pour couronner le tout. Et donc, il propose à la fin de ce livre cette consécration à la sagesse incarnée par les mains de Marie. Mais est-ce qu'il y a moyen de reprendre cet enseignement d'une manière synthétique? Je vais essayer. La sagesse, le contact avec Dieu, le plus intime de notre esprit, le contact d'esprit à esprit, qui fait que l'œil de l'âme, qui est l'intelligence, est illuminé par la lumière de ce contact, par la lumière que procure ce contact avec Dieu, qui est lumière, et entre donc dans ce qu'on appelle un regard de sagesse. C'est ce regard de sagesse qui est impressionnant chez le sage. On ne voit pas son contact avec Dieu, ça c'est caché, mais on voit son regard de sagesse à travers les paroles qu'il dit, les pensées qui abondent de son cœur. Donc on peut dire que le sage, c'est celui qui se laisse, qui regarde vers le Christ, qui le contemple, pour entrer dans le regard du Christ. Regardant Jésus, on entre dans le regard de Jésus sur les choses. On entre dans les pensées de Jésus. Nous l'avons, nous, la pensée du Christ. Dit saint Paul, après avoir dit, l'homme spirituel juge de tout. Il juge de tout parce qu'il regarde tout dans la lumière de Jésus. Dans la lumière de la connaissance de Dieu. Donc, nous avons, avec la sagesse, à la fois ce que l'on peut appeler la vraie connaissance, la vraie science. Ici, je me réfère à Philippiens 1, verset 9, où il est dit « Voici ma prière, que votre charité croissant toujours de plus en plus » s'épanche en cette vraie science, on peut traduire cette vraie connaissance, et ici, il me semble pouvoir affirmer qu'il s'agit de la connaissance de Dieu, qui en nous est proportionnée à l'amour, évidemment, et cette parfaite clairvoyance, qui vous donneront de discerner le meilleur. C'est intéressant, parce que ici, vous avez l'ordre. Vous voyez, qui va de la vraie connaissance, qui est connaissance intime de Dieu, contact, parfaite clairvoyance, c'est le regard de sagesse, qui vous demande de discerner, c'est ce dont je parlais au début, c'est la prudence, la sagesse pratique, le discernement de l'action juste, au moment juste. De discerner, il dit le meilleur, c'est-à-dire discerner parce que, pas simplement ce qui est moralement bon, mais ce qui est parfaitement ajusté à la situation. Le regard de sagesse, donc, qui se situe entre la vraie connaissance et le discernement pratique de l'action opposée, le regard de sagesse donc, nous donne de voir la vérité et la valeur, la vraie valeur des choses. Quand je dis ça, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire que cette vérité et cette vraie valeur des choses, nous en avons parlé hier dans cette même crypte en parlant de l'apprentissage de la charité. Hein, je veux me référer ici à tout ce que dit Benoît XVI sur le fait que quand on est en communion avec Dieu, on peut voir l'image de Dieu en l'autre. Dans son encyclique sur Deus Caritas Est. Donc, je veux dire, cette clairvoyance, elle s'exerce d'abord dans nos relations à autrui. Dieu et Dieu seul jugent selon le cœur. Les hommes, avec leur intelligence à mesure humaine, juge selon les apparences. Il n'y a que Dieu qui scrute le cœur. Mais dans la parfaite clairvoyance qui découle de la sagesse, nous pouvons parvenir, donc illuminés par Dieu, à voir ce qui est caché. À voir le caché du cœur, les sentiments cachés. Ça peut être pour voir la beauté cachée d'un visage défiguré par la souffrance ou même par la colère, ou par toutes sortes d'émotions, je dirais marquées par les blessures, mais il y a des personnes très blessées et qui ont un cœur pur. Ça peut être aussi pour voir l'hypocrisie, comme Jésus le manifeste clairement dans son regard sur les pharisiens. Et donc, je fais une petite parenthèse ici, vous voyez, cette parfaite clairvoyance n'est pas un jugement sur autrui, mais elle nous donne de juger de tout. N'est pas un jugement sur autrui au sens d'un jugement moral, comme nous poserions nous-mêmes, mais elle nous donne de rentrer dans le jugement de Dieu. Et qui est toujours un jugement plein de miséricorde en même temps. Et qui laisse ouverte la porte à la liberté de la personne, qui peut changer. Mais c'est pour vous dire que cette intelligence du cœur et ces yeux du cœur ne signifient pas voir tout en rose. Au contraire, on est davantage réceptif aussi à la malice qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme. C'est peut-être pour ça que le Qohélète dit plus de sagesse, plus de chagrin. Parce qu'on perçoit aussi tout ce qu'il peut y avoir de perversion. Il s'agit, comme je l'ai montré la dernière fois, d'entrer dans une intelligence d'enfant qui ne juge pas par d'elle-même des choses et des personnes, mais qui se laisse éclairer, donc instruire par Dieu. Je vous recite Jean 6, 45. Il est écrit dans Les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi, dit Jésus. L'homme a cette capacité de se laisser enseigner par Dieu, s'il tourne son cœur vers Dieu, s'il désire sincèrement la vérité, la sagesse. Et donc c'est évident qu'il y a des hommes qui sont sur un chemin de sagesse, qui sont d'une certaine manière des sages, mais non encore achevés, non encore accomplis, parce qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Jésus dit ici explicitement et de manière très claire que celui qui s'est vraiment laissé enseigner par Dieu vient à lui, dans la mesure où il a la possibilité d'avoir accès au Christ. Donc il faut savoir aussi à l'intérieur de cette affirmation que le Christ est lui et lui seul la sagesse incarnée, qu'il est l'unique maître des âmes. Il faut pouvoir en même temps, je dirais, reconnaître que tout homme de bonne volonté qui a un désir sincère de la vérité, qui renonce à lui-même, à son orgueil, et qui prie, eh bien, peut accéder à une sagesse du cœur, même si celle-ci, encore une fois, ne trouve sa plénitude que dans le Christ, puisque c'est que dans le Christ que nous connaissons. Je dirais, Dieu comme Père, d'une manière intime. En vous disant ça, je trouve quand même un peu douloureux de constater qu'il y a eu toute une génération, je pense à la génération de 68, qui est allée chercher la sagesse dans des ashrams, notamment. J'accompagne une personne qui a passé 17 ans parce qu'elle n'avait aucune idée que le christianisme puisse être une religion de sagesse. C'est une religion moralisatrice pour toute une génération. Comme si la sagesse chrétienne se réduisait à des normes morales. L'enseignement que je vous ai donné, ça c'est de la morale chrétienne. C'est ça la morale chrétienne d'abord. Et si vous regardez, j'étais frappé il y a quelques années, je lisais une lettre de Saint Jérôme, je ne sais plus à quelle occasion, une de ses filotées lui demandait comment elle devait faire pour régler sa vie. Pour mettre de l'ordre dans sa vie, il lui a pas dit étudier les 10 commandements, il lui a dit lisez le livre des prophètes, un livre de sagesse. Donc il y a eu des temps dans l'Église où pour vivre une vie morale chrétienne, on ne se focalisait pas uniquement sur les commandements qui réforment la main, comme dit le catéchisme, c'est-à-dire comme dit enfin, l'écriture, quand on dit la main, c'est des actions concrètes. Savoir si elles sont aux normes. Les 10 commandements, ce sont des barres de sécurité qui nous disent attention, de toute façon, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, tel type d'action ne sera jamais ajusté. Quelle que soit votre situation, si vous commettez l'adultère, vous ne serez pas dans la sagesse. On peut dire oui, mais la personne n'aimait plus son conjoint depuis longtemps, mais ceci et cela. Vous pouvez dire ce que vous voulez, moi je vous avertis, ça ne sera jamais la volonté de Dieu. Non, c'est des repères. Mais ça ne suffit pas pour trouver le geste juste au moment juste. C'est des panneaux d'indication. qui sont là pour qu'on ne tombe pas dans des gros panneaux, des gros péchés, si je puis dire. Mais ce n'est pas parce qu'on a évité de tomber dans ces panneaux qu'on peut pas en tomber dans d'autres. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui sont bonnes en elles-mêmes et qui ne sont pas ajustées du tout. Qui sont à côté de la plaque. Et souvent, en faisant des choses qui sont bonnes moralement, on fait même du mal. Par exemple, si vous commencez à faire faire la morale à quelqu'un en lui disant bah, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ça. C'est bien en soi de corriger quelqu'un. C'est, en tout cas, il n'y a pas de mensonge là-dedans, il n'y a rien contre les 10 commandements. Mais ça peut faire plus de mal que de bien si la personne n'est pas en état de l'entendre. Je dis ça comme exemple. Oui. Donc, les commandements n'ont jamais suffi. Les 10 commandements. On a besoin d'une sagesse de vie qui nous enseigne précisément comment nous laisser guider par Dieu, comment nous laisser conduire par Dieu dans nos actions concrètes, de telle manière que nous discernions pas seulement ce qui est bien, mais le meilleur, comme dit saint Paul en Philippiens 1,9. Grâce à cette parfaite clairvoyance, grâce à cette intelligence du cœur qui voit les choses, qui sent les situations dans la lumière de Jésus. C'est ça qui change la vie. C'est ça qui fait que progressivement, dans notre vie concrète, on arrive à... Moi, j'ai cette image, à surfer d'une manière tout à fait juste sur les vagues du monde, d'un monde où il y a plein de pièges, où le mal est omniprésent, et dans nos relations avec les autres, on évite tous ces pièges parce qu'on se laisse guider par la sagesse divine qui fait tout contribuer au bien de ce qu'il aime. Donc le sage sait profiter de tout. Il sait profiter de tout, il s'ajuste à tout, il rebondit en tout. Il se laisse abattre par rien. Il traverse tout. Nous avons une image de cette sagesse-là si nous regardons Benoît XVI. Continue son bonhomme de chemin. On lui tire de tous les côtés, comme Jean-Paul II, on lui tire de tous les côtés, mais continue son bonhomme de chemin. Trace sa route. Il surfe. Il sort d'autant mieux que les vagues sont très hautes et voudraient le submerger. Il avance très vite. Pleine tempête, là où il y a plus de vent. Quand saint Jean de la Croix dit l'amour c'est profiter de tout, du bien comme du mal, c'est l'amour en tant qu'il est source de sagesse. Parce qu'en définitive, c'est la sagesse qui sait profiter. La sagesse est un don qui, selon saint Thomas d'Aquin, découle directement de la charité, évidemment. Puisque une question d'union à Dieu, en définitive, c'est l'amour qui nous unit. Alors, nous sommes d'accord que ce nouveau mode de pensée auquel nous sommes invités en acceptant de dépendre du Christ, de sa lumière. C'est un mode de pensée filial. Je veux dire qu'on a à la fois un cœur d'enfant et une intelligence d'enfant. L'intelligence d'enfant, c'est-à-dire une intelligence qui se laisse instruire pas après pas. Qui fait que nous ne pensons pas de nous-mêmes. Nous ne pensons pas de nous-mêmes puisque nos pensées jaillissent de la perception que Dieu nous donne par sa lumière. On connaît Dieu, on voit en Dieu et on pense en Dieu. Et la pensée découle immédiatement de la perception. Quand je dis immédiatement, c'est peut-être pas tout à fait juste, au sens où entre la perception des choses et son expression au niveau conceptuel, il peut y avoir un temps. Il y a des personnes, j'aime bien le dire, qui voient bien, mais qui n'acceptent pas la pensée parce qu'il leur manque les mots. Des gens qui sont de milieux très simples, ils ont une profonde intelligence, ils n'ont pas de culture, et donc ils n'arrivent pas à exprimer les choses. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas la même intelligence du cœur, mais qui ont lu plein de livres spirituels, de bons livres, et qui donc ont tout un discours très, je dirais, très huilé et très riche. Je pense ici à la confidence, je dirais, de qui d'un penseur chrétien, catholique, vraiment catholique, qui, c'est un de ses amis qui me l'a confié, et à un moment, a poussé une grande colère intérieure vers la fin de sa vie en disant qu'il avait beaucoup écrit sur la mystique et qu'il n'avait jamais vécu lui-même les choses. Mais à le lire, on aurait l'impression qu'il sait de quoi il parle. Non, c'est la culture. Ça donne le change, quelquefois. Mais ça n'a jamais remplacé l'intelligence du cœur. Puis à l'autre extrême, hein, vous avez des gens qui n'auront jamais accès à la parole, mais qui sont totalement collés à la lumière divine, si je puis dire. Moi, je pense souvent, c'est mon père spirituel, enfin, qui est décédé maintenant, le père Chapelle, qui me rappelait que l'intelligence d'une personne handicapée mentalement, elle est la même que celle d'un professeur d'université. Fondamentalement, l'intelligence, c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit qui est fait pour voir. L'esprit, c'est l'œil de l'âme. L'esprit qui ne fait qu'un avec, on peut dire, à ce niveau-là, avec une... Oui, c'est l'intelligence profonde. Et puis, avec cette intelligence profonde, il y a la capacité du raisonnement, l'intelligence raisonneuse. Et ça, on pourrait dire, le raisonnement, c'est comme une faculté de notre intelligence. En tout cas, ce n'est pas le cœur de notre intelligence, ce n'est pas essentiel. Dieu... L'intelligence de Dieu est sans raisonnement. Dieu ne raisonne pas. Il voit. Sa pensée découle, elle ne fait qu'un avec un simple regard. Et dans un simple regard, il voit toute chose. Non seulement toute chose dans l'espace, mais toute chose dans le temps. Ça, l'intelligence divine. Puisqu'il est au-delà du temps. Donc, la personne handicapée va avoir une intelligence comme le professeur de la Sorbonne, puisqu'elle est créée à l'image de Dieu comme lui. Mais en raison d'un handicap, je pense à une personne trisomique, handicap au niveau du corps, son psychisme est handicapé à cause du corps, et cet handicap psychique empêche le raisonnement, l'exercice du raisonnement mental. Donc c'est au niveau mental qu'elle est handicapée, et pas au niveau de l'intelligence. On est bien d'accord. Et donc, si on parle un langage... je dirais cohérent, hein. Il faudrait dire qu'une personne handicapée mentalement qui a une foi profonde, qui connaît Jésus dans son cœur, est bien plus intelligente qu'un professeur de de théologie à l'université catholique, qui a aussi la foi, mais qui n'a pas la même intimité avec Jésus. Ce que je vous dis là a donné lieu à une thèse qui a fait du bruit à Rome, parce que ça a un petit peu agacé un certain nombre de professeurs, disant que tous les saints sont théologiens. Ça, c'est difficile de nier, puisque tous les saints connaissent Dieu. Mais il a rajouté, et seuls les saints sont théologiens. Seuls les saints sont théologiens. Alors, il paraît que quand il a commencé à défendre sa thèse, c'est le Père Carme qui a écrit, je ne me souviens plus de son nom, Père Letel, je crois. Enfin, peu importe. Et alors, quand il a défendu sa thèse à Rome, pareil, la première question qu'ils ont posée les professeurs de théologie, c'est: est-ce que vous considérez comme un théologien? Il a répondu: non, comme un professeur de théologie. Quelqu'un qui enseigne ce que d'autres ont enseigné. Au sens universitaire, c'est-à-dire on n'est pas censé penser soi-même. On enseigne saint Thomas d'Aquin, on enseigne saint Bonaventure. Bref, on répète ce que des saints ont dit. On essaie de répéter intelligemment. Et en fait, on est au niveau du raisonnement. Ce qui explique que dans les universités allemandes, puisqu'ils sont d'État, il y a l'enseignement théologique donc d'État, il puisse y avoir des professeurs athées, mais qui se passionnent pour la théologie. C'est un peu paradoxal, mais ça vous fait comprendre à quel point l'intelligence raisonneuse peut être coupée de l'intelligence du cœur. Bon, je ne pense pas qu'il puisse être de bons professeurs de théologie, je vous rassure. Je ne pense pas ça. On est saint à partir du moment où on a le cœur pur, en fait. La pureté du cœur et l'humilité, ça se rejoint. Humilité et pureté, c'est-à-dire quand on est mort à soi-même, mortification universelle, dit Saint-Louis-Marie de Montfort, en fait, la sagesse, la pleine sagesse, elle est donnée avec la sainteté, évidemment. Mais je vous ai dit qu'il y avait différents niveaux dans la contemplation. Et donc, on peut parvenir à une vie contemplative, à une intelligence contemplative, sans être déjà dans la sainteté. Ce qui est le propre du saint, c'est la sagesse mystique. Voilà. Mais il y a une contemplation qui peut être donnée avec un certain effort de purification du cœur, d'ascèse, de vie de prière, qui fait qu'on a une sagesse, je dirais, suffisante pour, d'une manière générale, se laisser guider par Dieu dans sa vie. Il y a des degrés dans la sagesse, comme il y a des degrés dans l'abandon, comme il y a des degrés dans l'humilité, comme il y a des degrés dans la pureté. C'est pas tout ou rien.
Et qui peut déclarer un cœur pur?
Hein?
Qui peut déclarer un cœur pur?
Mais qui peut déclarer un cœur pur? Seul le pape peut dire qu'il engage son infaillibilité quand il déclare quelqu'un saint. Mais c'est après la mort de la personne, en jugeant l'arbre aux fruits et en voyant notamment s'il a conduit sa vie avec sagesse. Alors, mais je vous avais expliqué ça, à travers notamment la distinction entre la purification des sens et la purification de l'esprit, chez Saint-Jean de la Croix. Cette intelligence d'enfant qui se laisse éclairer donc continuellement par Dieu, sans jamais prétendre pouvoir savoir la vérité par elle-même, voire la posséder. Ce nouveau mode de pensée qui est un mode filial, Jésus, le premier, l'a vécu dans son humanité, puisqu'il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a raisonné, Jésus. Dieu, dans cette enfin, Dieu ne raisonne pas, mais le Dieu fait homme raisonne. Encore. Donc, Jésus a pensé, si je peux dire, comme nous. Donc, il s'est laissé éclairer dans son intelligence d'homme, s'est éclairé par le Père. Il a eu des pensées qui venaient d'un cœur éclairé par le Père. Écoutez Jésus, Jean 6, 16, 18, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, et celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Il n'y a pas en lui d'imposture. » Voyez ici qu'en définitive, Jésus rattache la sagesse à l'humilité. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Celui qui pense de lui-même ne peut pas être dans l'humilité. Par contre, celui qui veut faire la volonté du Père dans l'obéissance, dans une humble obéissance, dans une humble soumission, celui-là, il est celui qui cherche la gloire du Père, celui-là est dans la vérité, il est véridique, il est dans la lumière de Dieu. Il ne pense pas de lui-même. Donc ici, nous établissons clairement que Jésus n'est pas simplement la sagesse incarnée, il est le chemin qui conduit à la sagesse. Il est la voie d'enfance au niveau de la pensée. C'est lui qui nous introduit, qui nous fait cheminer vers cette intelligence d'enfant. C'est lui qui nous apprend un mode filial de pensée. C'est lui qui nous montre comment, qui nous donne la grâce de nous laisser instruire par le Père. Il n'est pas simplement la vérité, il est le chemin qui conduit à la vérité. Le chemin qui conduit à la sagesse. Ici, je voudrais reprendre ce que nous avons déjà vu un peu la dernière fois, c'est-à-dire cette intelligence d'enfant qui reçoit la lumière dont elle a besoin pour voir et pour penser, qui se laisse instruire par Dieu dans le secret. Cette intelligence d'enfant, au niveau dans sa dépendance à Dieu, dans son accueil de la lumière divine, dans son écoute de Dieu, comment doit-elle vivre concrètement cette écoute? Comment doit-elle vivre concrètement cette dépendance à Dieu? Posez-vous la question. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je reprends. Synthétiquement, il y a une dépendance, trois dépendances. Dépendance aux Saintes Écritures, c'est-à-dire aux pensées de Dieu écrites. Des pensées que l'Église nous interprète d'une manière juste à travers son magistère, qui sont gardées dans la tradition. Dépendance à ce que Dieu nous dit et ne cesse de nous dire à travers d'une certaine manière, ces autres signes que sont les événements de notre vie, qui sont aussi des signes à déchiffrer et à interpréter divinement, comme les Écritures sont des signes divins à interpréter divinement. Les événements de notre vie sont tous pleins de sens. Comme les paroles de la Bible sont pleines de sens. Puisqu'elles sont aussi l'expression de la sagesse de Dieu, qui gouverne toutes choses. Quand le proverbe dit que Dieu trace, écrit des lignes droites avec des courbes, il écrit. Les événements sont aussi des écrits de Dieu. Ils sont l'expression de sa pensée, du chemin par lequel il nous conduit. Alors vous allez me dire qu'il y a des événements qui sont directement liés au péché, que Dieu ne veut pas mais qu'il permet, oui, c'est vrai. Tout ne se passe pas en ce sens-là selon sa sagesse, il y a des actes qui sont contraires à sa sagesse, qu'on appelle des péchés. Mais les péchés ont été assumés par le Christ. Il les a portés pour que le mal puisse être tourné en bien. Et donc Dieu sait ce qu'il permet et il peut toujours faire contribuer ce mal à un bien plus grand. Et donc ça n'échappe pas à sa providence, pleine de miséricorde et de sagesse. Et donc nous ne devons jamais nous laisser abattre par les événements. Nous devons surfer. Pour surfer, donc nous devons rester à l'écoute de ce que Dieu murmure à notre cœur à travers ces événements, puisqu'il nous montre le chemin par lequel nous allons pouvoir surmonter les épreuves. Passer au-dessus. En suivant un chemin d'humilité, c'est-à-dire aussi en passant au-dessous. C'est-à-dire en ne voulant pas vaincre par nous-mêmes, mais en se laissant vraiment guider par Dieu pour échapper à tous les pièges, à la fois du malin, du monde et de nos propres passions. Parce que nous avons trois ennemis, le malin, le monde et nous-mêmes. C'est-à-dire notre vieil homme. Et ces trois ennemis qui ne cessent de nous tendre des embuscades, eh bien, si nous ne sommes pas vigilants, nous tombons dedans. Mais si nous sommes vigilants, nous avons la lumière de Christ qui a assumé tout ce mal par sa croix, qu'il a traversé, et qui donc nous donne la grâce pour surfer. Ou si vous préférez, pour marcher sur les eaux. Et marcher sur les eaux, c'est un enfant qui m'a dit ça, le catéchisme m'a dit, Jésus nous apprend à marcher sur les eaux. Jésus nous apprend à marcher sur les eaux. Les eaux, c'est la masse des eaux, c'est la masse du mal. C'est le mal déchaîné, la tempête. Le mal est déchaîné. Dans notre monde moderne, on peut dire que le mal est déchaîné. Eh bien, Jésus nous apprend à marcher sur les eaux. Mais comme vous le savez bien dans cet évangile, hein, Pierre il coule dans la mesure où il regarde les vagues au lieu de regarder Jésus. Regarder les vagues et se laisser prendre par la peur au lieu de regarder Jésus, c'est sortir de cette sagesse. C'est sortir de l'intelligence du cœur, hein, qui est d'abord regard vers le Christ. Regarde tourné vers Jésus. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, on reste dans sa lumière et donc on voit un chemin qui se dessine même à travers le mal, qui se déchaîne. On n'a jamais raison d'avoir peur. Notre imagination qui nous joue des tours, notre mémoire et notre imagination. Mais Dieu est le plus fort. Donc il n'y a aucun mal qui devrait nous paralyser. Ce qui nous paralyse, c'est la manière dont nous le regardons. Sans le regarder avec Jésus et dans la lumière de Jésus. Qui donne sens à tout, y compris au mal, par sa passion. Puisque tout ce mal, il l'a pris sur lui, il l'a porté et il l'a ouvert à l'amour miséricordieux du Père, il l'a ouvert à la toute-puissance de la miséricorde du Père. Donc, je dirais que cette attitude, l'attitude d'écoute que nous avons vis-à-vis des Saintes Écritures, que nous devons avoir aussi vis-à-vis des événements, les écouter, ou plutôt écouter ce que Dieu nous dit à travers eux, les voir sans, d'une certaine manière, les regarder, au sens où on ne s'arrête pas aux événements. On ne s'arrête pas aux événements. Puisqu'on voit Dieu à travers eux. On voit la providence de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Donc on ne regarde pas les vagues elles-mêmes. On voit le mal, mais on le voit dans la lumière de Dieu, ce qui fait qu'on voit Dieu. De cette manière, on ne voit que Dieu. On voit Dieu en tout. Voyant Dieu en tout, on voit donc tout en Dieu, on rentre dans le regard de Dieu. Puisqu'on voit Dieu, on rentre dans la lumière de Dieu. On voit Dieu en recevant les choses de la main de Dieu, en posant un acte de foi en sa providence, qui peut toujours tourner donc le mal en bien. En recevant toute chose de la main de Dieu par la foi, comme dit le Concile, eh bien, on voit toute chose dans sa lumière, dans la lumière de sa sagesse, et donc on surmonte toute chose. Dans le monde, vous aurez à souffrir de Jésus, mais n'ayez pas peur, moi j'ai vaincu le monde par ma sagesse. Qui sait tourner le mal en bien. Et donc suivez-moi. Mettez votre confiance en moi, suivez-moi. Quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Prendre sa croix, c'est accepter les événements. Même les événements douloureux. Les accepter pour pouvoir les vaincre dans le Christ. Pour qu'effectivement, le mal puisse être tourné en un bien pur. Il n'y a aucune religion qui puisse parler comme ça. Il n'y a que la religion de la passion et de la résurrection d'un Dieu fait homme qui peut parler comme ça. Il n'y a aucune religion qui a une telle espérance. Il n'y a aucune religion qui a une telle sagesse que la sagesse du Christ. La troisième chose que je mettrai avec cette écoute de Dieu dans les Saintes Écritures, cette écoute de Dieu dans les événements, c'est l'écoute de Dieu dans notre raison elle-même. Au sens de cette intelligence qui est raisonnable. Pas raisonneuse au sens négatif du terme, mais raisonnable au sens qu'elle est douée d'une raison dans laquelle sont inscrits des principes. Que saint Thomas d'Aquin appelle la lumière naturelle de la raison. Ainsi, la lumière naturelle de la raison nous dit qu'il faut faire le bien et éviter le mal. Dans cette raison, dans cette lumière naturelle de la raison, sont en réalité inscrits aussi les 10 commandements. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ces choses-là, en réalité, sont inscrites dans la raison. Saint Paul dit qu'elles sont inscrites dans le cœur, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites enfin, dans le cœur et dans la raison, elles sont inscrites dans la raison profonde, j'ai envie de dire. Enfin, c'est difficile à dire ici. Il paraît que Benoît XVI a réuni j'ai entendu dire, mais je ne savais pas, a réuni des théologiens pour essayer d'approfondir la question de la loi naturelle, c'est-à-dire la loi inscrite dans notre cœur, et que la raison nous dicte. Disons que la raison déchiffre cette loi inscrite dans le cœur. Elle nous l'a dit, elle nous la rappelle. Attention, pour faire le bien et pas le mal. On n'a pas le droit de faire le mal pour un bien, parce qu'il ne faut pas faire le mal. Oui, mais c'est pour un bien. Non, il ne faut pas faire le mal. Ah, mais... Non, tu ne feras pas le mal. Même pour le bien, non, la raison te dit non. La droite raison. T'as pas le droit. Fais pas ça. Des fois, on n'écoute pas. Hein? Mais écouter la droite raison, c'est écouter Dieu. Si vous préférez écouter la voix de sa conscience, c'est écouter Dieu. Sa conscience morale. Donc, je vous ai dit, les 10 commandements, ça ne suffit pas, mais dans bien des cas, heureusement qu'ils sont là, inscrits en nous, parce que sinon, on partirait à la dérive. Mais il ne suffit pas des commandements, il faut écouter les événements, écouter Dieu dans les événements, écouter Dieu aussi dans les Saintes Écritures qui nous donnent l'accomplissement de tout, la lumière ultime. Il y a des personnes qui se laissent guider par leur méditation de l'Évangile et par les signes qu'elles voient ou croient voir dans les événements et qui oublient qu'elles ont une raison. Et ici, je rappelle un principe simple, c'est que ce que la raison peut connaître par elle-même, Dieu ne le révèle pas d'une manière surnaturelle. Vous n'aurez jamais un ange qui vous apparaîtra pour vous dire qu'il faut payer vos impôts. Et si vous ne les payez pas parce que l'ange n'est pas apparu, vous manquez de sagesse. Donc, cette question de l'écoute. Écoute du réel, elle se vit notamment d'une manière simple dans le dialogue avec autrui. Dans le dialogue avec autrui, j'écoute le réel. J'écoute avant de parler. Soyez prompt à écouter, non à parler, dit Saint-Jacques, Jacques 1, 19. Siracide 11, 8, ne répond pas avant d'avoir écouté. N'intervient pas au milieu du discours. C'est-à-dire, fais-toi petit, redeviens enfant, laisse-toi d'abord instruire par Dieu à travers l'événement, à travers cette personne qui te parle. N'écoute pas simplement ce qu'elle te dit, parce que ce n'est pas ce qu'elle te dit qui compte, c'est ce que Dieu te dit à travers ce qu'elle te dit. Écoute Dieu, mais en écoutant l'autre. De la manière qu'on écoute Dieu en acceptant les événements. Si on écoute vraiment Dieu en écoutant l'autre, on ne perd jamais son temps à écouter. Bon, on pourrait parler des heures de l'écoute par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un temps pour s'ouvrir à la lumière de Dieu, pour se faire petit enfant dans notre intelligence, pour se laisser éclairer, pour s'ouvrir donc à notre Père du Ciel qui veut nous instruire. Tant d'abandon, tant d'obéissance, tant d'accueil. Et puis il y a un temps où la lumière qu'on a reçue porte son fruit en pensée et en parole, on peut répondre. Moyennant l'écoute, qui nous rend réceptifs à la lumière divine, on répond à l'autre, en donnant la parole juste au moment juste. Alors vous comprenez que si par impatience, j'interromps l'autre dans son discours, j'interviens comme ça, pour lui dire, écoute, tu te trompes, faut que tu fasses ça, mais ce que tu dis, ça ne tient pas la route, écoute-moi, on n'est pas dans le chemin de la sagesse. On fait du hors-piste. On ne surfe pas là. Puisqu'on ne prend pas le temps d'accueillir la lumière, pour que celle-ci produise au moment où on a fini l'exercice, elle produise son fruit en pensée lumineuse. Moi, je peux vous dire simplement que dans l'exercice de mon ministère de prêtre, notamment dans la confession, je vérifie ça toujours. Mais souvent, quand la personne parle, est en train de parler, qu'elle dit des choses, c'est des pensées qui me viennent spontanément, qui sont plutôt liées à mon expérience. Elle dit ça, ben oui, ça me rappelle quelqu'un qui avait eu la même difficulté et qui l'a résolue de telle manière. Alors j'ai envie d'intervenir en lui donnant tout de suite un peu la solution. Je dis, tu pourrais faire ça. Puis je me retiens parce que la personne parle encore. Alors je mortifie cette pensée propre. Je tâche même de l'oublier. Je reviens dans le silence de l'écoute. La personne continue à parler. Je trouve que ça dure longtemps. Mais j'essaye de vivre l'exercice jusqu'au bout. Puis au moment où je m'aperçois que c'est au moment où la personne a fini et que moi j'ai achevé mon exercice qui dure le temps que Dieu veut, que la vraie lumière est donnée. Et que les autres pensées que j'avais eues, qui étaient prématurées, qui étaient des pensées prématurées, qui venaient en fait de moi-même, de mon expérience, de ma connaissance acquise, étaient des pensées à côté de la plaque. De toute façon, elles ne pouvaient pas être justes parce qu'elles ne venaient pas au moment juste. Et les pensées justes, elles viennent au moment où on a besoin d'agir. Voyez, il y a une maturation de la pensée qui se fait dans le temps de l'écoute. Pendant le temps de l'écoute. Donc si j'écoute l'écoute, je vais avoir un bébé prématuré qui ne sera pas viable. C'est des pensées pas bonnes. Elles sont pas matures. Il faut laisser le fruit de la lumière venir à terme selon le processus de l'écoute. Je me fais réceptif avant de donner. Je reçois, j'écoute avant de parler. Le plus difficile, c'est pas de parler, c'est d'écouter. On demande beaucoup plus de renoncement à soi. Beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'humilité, d'écouter que de parler, parce qu'on croit qu'on va pouvoir dire à l'autre ce qu'il doit faire. Vous voyez, quand Jésus dit « Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, tu verras après enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui, enlever la poutre qui est dans ton œil », ça se fait aussi à travers cet exercice d'écoute, qui est un exercice de renoncement à notre pensée propre et à notre volonté propre. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans ce mode filial de pensée? C'est que on se retrouve dans une situation où on ne maîtrise pas ses pensées. Les pensées viennent au bon moment si on est resté dans cette attitude d'écoute, d'abandon. Et donc, si on ne maîtrise pas ses pensées par des sortes de raisonnements, vous voyez, qui ont l'air béton, des raisonnements béton. Tout le monde rêve de raisonnements béton. Au moins, ça c'est solide. On peut s'appuyer dessus. Mais les lumières divines se laissent rarement, même jamais, mettre en raisonnement béton. Les lumières divines, elles sont donc, elles se frayent un chemin dans notre intelligence, elles finissent par accoucher en pensée, et sans que nous puissions maîtriser ce processus d'accouchement. Et c'est difficile. C'est difficile de dépendre de la lumière comme ça. C'est difficile de l'attendre avec patience. C'est difficile de rester comme ça dans une sorte de silence, en tout cas de non-savoir, surtout quand il s'agit de notre avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ce matin, je recevais une personne qui m'a dit, ben voilà, j'ai plus de travail, je vis sur mes économies, et bientôt ce sera fini, et ma famille s'inquiète, on me dit, il faut que tu te mettes à faire ce travail, mais je ne sens pas que je sois fait pour ce travail-là, mais si je le refuse, est-ce que je vais en trouver un autre? Discerner la lumière. Moi, je suis contenté de lui dire, écoutez, ce ne doit pas être la peur qui doit vous guider. Mais essayez de retrouver la paix, déjà. Et revenez à l'abandon, et puis la lumière vous sera donnée. Mais si elle ne vous est pas donnée, il faut savoir attendre aussi. C'est pas la peine de courir sur un mauvais chemin. Il vaut mieux avancer un petit pas sur le bon chemin. Mais j'en ai pas dit plus. Parce que je ne suis pas Dieu. Écoutez, Benoît XVI parlant du Christ qui vient apporter la lumière dans notre monde qui a plutôt tendance à s'enfoncer dans la nuit. Mais qui, dans la nuit du doute et des incertitudes, veille avec un cœur vigilant et priant? Je ne sais pas comment vous parle cette expression de la nuit du doute et des incertitudes. Et on peut dire que ce qui caractérise notre temps, c'est que c'est un temps de doute et d'incertitude. Et de plus en plus de gens vivent dans l'angoisse à cause de ce doute et de cette incertitude, n'osent même plus donner la vie, de femmes qui n'osent plus donner la vie, parce qu'il y a trop de doute et d'incertitude. Qui, dans la nuit du doute et des incertitudes, veille avec un cœur vigilant et priant? La pureté du cœur. Vigilant dans l'attente de Dieu. Peut-être mettre ici l'espérance. Qui attend l'aurore du jour nouveau? C'est-à-dire, qui attend que le soleil, que le Christ se lève dans son cœur? En tenant allumée la petite flamme de la foi. Ici, en fait, Benoît XVI cite, je ne peux pas dire sans le savoir, en sachant, il cite en le sachant, parce qu'il connaît très bien les Écritures, il cite en le sachant le deuxième épître de Pierre, hein, qui nous dit, vous faites bien de regarder la parole prophétique, les paroles de l'Écriture, hein, de les regarder, de les garder dans la foi, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. C'est-à-dire, en attendant que Dieu nous donne la réponse à nos questions, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel est son appel? Tenir la petite lampe de la foi. Dieu sait, je suis dans la main de Dieu. Je n'ai pas à avoir peur. Petite lampe de la foi qui nous donne la force d'attendre, qui me donne la force d'espérer dans la nuit, jusqu'à ce que le jour se lève. Jusqu'à, comme dit Saint-Pierre, que le jour commence à poindre et que l'astre de ma sainte se lève dans vos cœurs, c'est-à-dire là où Dieu nous parle, là où il met sa lumière. Qui prend le temps d'écouter sa parole et de se laisser prendre et fasciner par son amour? Qui prend le temps de connaître Dieu, d'être entré en contact avec lui, en l'aimant plus que tout, en se laissant fasciner par lui. Qui prend le temps de réveiller ce désir de Dieu, qui est le vrai désir de la sagesse. Vous voyez, un monde qui n'est qu'agitation sur fond de peur, d'angoisse, de doute et d'incertitude, dans lequel il n'y a plus de place pour cette vigilance du cœur qui attend la lumière. C'est là où le malheur semble triompher. On pourrait dire, à vue humaine, mais comment pourrions-nous accéder à la sagesse dans un tel monde où nous sommes complètement dispersés, tiraillés, stressés, mis dans une phase d'inquiétude quasi permanente, alors que la lumière de Dieu nous est donnée dans la paix et dans l'abandon filial? Comment on va pouvoir accueillir l'astre du matin qui veut se lever dans nos cœurs? Ben, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Possible à Dieu. Possible à Dieu, parce qu'il a envoyé son Fils dans ce monde des ténèbres, et qu'encore une fois, ce chemin d'accès à la sagesse, c'est Jésus qui le trace. Ben, Jésus est plus fort que l'agitation du monde, que l'angoisse et la peur qui noue le cœur de l'homme et l'empêche humainement de s'ouvrir à la lumière. Et comme il s'agit que notre humanité puisse retrouver donc le chemin de la sagesse, elle s'est éloignée de Dieu, elle s'est éloignée de la sagesse, elle s'est éloignée du Christ et elle doit en retrouver le chemin. Je vous ai cité Benoît XVI, mais on peut le cardinal Ratzinger, mais on peut encore le citer. Nous avons besoin d'hommes comme Benoît de Nursie, qui, en un temps de dissipation et de décadence, se plongea dans la solitude la plus extrême, réussissant, après toutes les purifications qu'il dut subir, à remonter à la lumière. Et à revenir et à fonder au Mont Cassin, la cité sur la montagne, qui, avec tant de ruines, a mis ensemble les forces à partir desquelles s'est formé un monde nouveau. Nous sommes dans l'espérance d'un renouveau de l'Église et d'un renouveau de la société. Mais on voit bien que ce renouveau suppose que nous nous laissions purifier pour remonter à la lumière. Comme au moment de la décadence de l'Empire romain, il y a eu des hommes qui se sont laissés conduire par Dieu sur ce chemin de la sagesse, en se laissant purifier jusqu'au bout. Et si c'est un travail d'accouchement, qu'est-ce qu'il faut pour un travail d'accouchement? Il faut une maman. Qu'est-ce qu'il faut pour naître à nouveau, pour redevenir tout petit? Il faut un sein maternel. Et donc, quand Marie dit finalement, cœur immaculé triomphe. Parce que le triomphe du cœur immaculé de Marie sera le triomphe de la sagesse. Enfin, ça précédera le triomphe de la sagesse, c'est-à-dire le triomphe du Christ, qui est la vraie sagesse qui éclaire tout homme en venant dans ce monde et qui va être victorieux des ténèbres, des idéologies qui ont été si destructrices au XXe siècle. Et donc, nous attendons que la lumière se lève dans les cœurs, alors que la nuit semble plus obscure que jamais, mais les étoiles elles brillent la nuit. Nous attendons et nous laissons ce travail de purification d'accouchement qui ne peut se vivre que dans les douleurs, nous le vivons dans le cœur de Marie, parce que comme dit Saint-Louis malgré un confort, Marie c'est la confiture des croix. La confiture des croix. Elle rend plus doux ce qui est amer. Et donc, pour un accouchement sans trop de douleur, prenez Marie. Ça vaut mieux que n'importe quel traitement homéopathique ou autre. Voyez. Prenez Marie, à petite ou grosse dose, mais en tout cas, vous avez un moyen tout simple qui est le rosaire. Mais ce n'est pas simplement la question du rosaire, voyez, c'est la question de la consécration à Marie, c'est-à-dire de se blottir, de se réfugier dans le cœur immaculé Marie, qui est pur, humble, écoutant. Qui a toutes les dispositions dont on a besoin pour obtenir la sagesse. Vous allez me dire que c'est Jésus qui trace le chemin. Oui. Mais Marie a suivi Jésus sur le chemin de la sagesse. Et donc elle nous aide à nous laisser conduire par Jésus sur le chemin de la sagesse. Elle nous apprend à suivre le chemin, parce qu'elle-même a grandi dans la sagesse, à l'école de Christ. Donc elle ne se situe pas au même niveau que Jésus. Elle est, comme aimait dire Jean-Paul II, la première disciple du Christ. Ça, d'ailleurs, sa mère Marie-Enfant ne l'avait pas dit. Elle est la fille de son fils. Ça, c'est Dante qui l'a dit. Et Jean-Paul II aimait le redire. La fille de son fils. Elle s'est laissée éduquer par le Christ. Précisément sur ce chemin de la sagesse. Et donc, nous nous consacrons à Jésus-Christ, sagesse incarnée, c'est-à-dire, nous mettons toute notre confiance en Jésus, sagesse incarnée, sauveur, sauveur de notre intelligence, hein, qui nous sauve de l'emprise des ténèbres. Mais pour que cette consécration à Jésus-Christ, sagesse incarnée, puisse réellement se réaliser et accoucher de la sagesse en nous, nous avons besoin de Marie. Marie qui se laisse donc instruire et conduire par le Christ, Marie qui a gardé devant les yeux tous les événements de la vie de Jésus, et qui à travers les mystères du rosaire nous fait rentrer dans cette contemplation des événements de la vie de Jésus qui illumine notre cœur et nous donne de voir le vrai sens de tous nos événements à nous. Nous allons terminer en posant un acte de sagesse qui consiste à se soumettre à l'heure. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.